Il est 8h22 dans les matinales d'Espace 2. Bienvenue à vous, Paul Bisseger.
Bonjour.
Bonjour à vous, auteur, historien. Votre violon d'Ingres, même plus encore, c'est d'étudier, d'analyser, de raconter les monuments historiques suisses, ainsi que le patrimoine vaudois, au travers de très beaux livres édités par la Société d'Histoire de l'Art en Suisse. Le dernier en date, Zoom sur Rolle et son district. Rolle, jolie ville au bord du lac Léman, à mi-chemin entre Genève et Lausanne. Et vendredi, on vous retrouve à l'église de Perrois, à quelques kilomètres de Rolle, pour la présentation de cette nouvelle somme. Voilà qui est dit. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que j'ai le sentiment que ce métier d'historien, c'est celui d'un bénédictin. Très grande solitude.
C'est absolument ça, effectivement. Nous passons nos journées essentiellement dans les archives, puisque effectivement, l'inventaire des monuments d'art et d'histoire, comme il s'appelle, est un inventaire à la fois topographique, donc de terrain, de repérage, de visite de maisons, de châteaux, mais aussi un travail de recherche aussi approfondi que possible dans les archives de toutes sortes, communales, cantonales, privées, ecclésiastiques, les archives de Savoie. On étudie des documents en latin, en vieil allemand pour l'époque bernoise, en vieux français. Donc il faut être assez polyvalent et c'est vrai que c'est un métier qu'on ne peut faire que sur l'enthousiasme en fait.
Mais cette passion, forcément il y a une passion qui permet d'être le socle en fait de cette vocation, si oui. On veut bien. Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans cette analyse ?
Ah, c'est l'être humain, bien sûr, puisque les monuments ne sont que des archives de pierre, en quelque sorte, et qu'il y a toujours des gens derrière ces monuments, des gens, des artistes, des maîtres de l'ouvrage, des gens riches, des gens pauvres, des gens qui ont travaillé dur. Et dans le fond, c'est de retrouver toute cette histoire, de mettre les monuments dans leur contexte, de retrouver leur origine, leurs auteurs, leur évolution également. Mais il y a toujours l'homme là derrière, et c'est ce que je trouve le plus passionnant.
Paul Bisseger, la côte. Pourquoi avoir choisi de zoomer justement sur cette très belle région, certes, mais pourquoi celle-ci en particulier ?
Eh bien, la collection des monuments d'art et d'histoire a l'ambition de couvrir tout le territoire de la Suisse. C'est une collection qui a démarré dans les années 1932 exactement. Avec un ou deux ou trois volumes par année, publiés par la Société d'Histoire de l'Art. L'ambition est de couvrir l'ensemble du territoire. Il y a déjà 120 volumes parus dans cette collection, c'est-à-dire que ça remplit un rayon de bibliothèque.
plusieurs.
Et pour le canton de Vaud, il y a 7 volumes actuellement. 4 concernent la ville de Lausanne. 4 volumes de 500 pages pour la seule ville de Lausanne, un volume de 500 pages pour la ville de Morges, paru en 1998, un volume équivalent, même presque 600 pages pour Moudon, et puis maintenant ce volume sur le district de Rolle. Donc en fait, dans le canton de Vaud, presque tout est à faire encore, il fallait bien choisir une région.
Et vous êtes gourmand, donc ça va bien.
Absolument, je me suis fait plaisir, oui, tout à fait.
La côte, elle se caractérise par beaucoup de choses, notamment son vin.
Oui, exactement, c'est une région extrêmement riche. Le vignoble a de tout temps attiré les gens riches, les gens fortunés, les couvents, les seigneurs. C'est un produit de première nécessité, si je puis dire, le vin, puisque bien sûr, au Moyen-Âge, on avait déjà, pour commencer, besoin de vin de messe pour les services religieux. On avait bien sûr aussi un commerce de vin très important, mais c'était aussi une question d'hygiène, puisque l'eau, très souvent, était polluée et c'était une question de sécurité. Dans le fond, que de boire du vin, on en faisait une affaire de santé. Et à ce titre-là, on se rend compte qu'en temps de peste, par exemple, au XVIe, XVIIe siècle, la peste était fréquente, courante ici, et il y avait un personnage qu'on appelait le marron, qui était le personnage qui soignait les malades quand ils étaient malades et qui les enterrait surtout une fois qu'ils ne l'étaient plus. Et ce marron, par exemple, refusait d'entrer dans une maison de pestiférés avant d'avoir bu, et on lui donnait, la commune le rémunérait très richement, puisque c'était un métier extrêmement exposé, bien sûr. Et il recevait plus de 3 litres de vin par jour pour lui-même.
Par jour.
Oui, exactement.
Quelle soif.
Donc, oui, quelle soif. Je pense qu'on partait de l'idée qu'effectivement, l'alcool conservant, ça lui donnait des chances. Mais ces marrons étaient souvent renouvelés. on se rendait compte que lui-même avait malheureusement succombé.
Des marrons chauds, donc.
Mais cette notion de santé dure longtemps, en fait, d'ailleurs encore de nos jours. Il y a des gens qui, enfin, des médecins qui trouvent que c'est très bien de boire un peu de vin. C'est intéressant de constater qu'en 1714, le pasteur et historien Abraham Ruchat cite ce riche territoire de la côte et dit, je cite, « Il y coule un vin plus utile pour la santé et plus ami de l'homme que celui de l'aveau. » Je trouvais la citation intéressante et je laisse bien entendu la responsabilité de ce témoignage à Ruchat. Je n'y adhère pas.
Paul Bisseguer, moi j'ai été très frappée par la couverture de votre livre qui m'a beaucoup attirée parce que je connais la région de Rolles, je viens de là. Mais alors cette tour avec un couronnement en briques rouges et blanches, j'avoue que je ne vois absolument pas où elle se trouve.
C'est tout à fait intéressant comme question. C'est une question qui m'a été posée par plusieurs Rollois déjà, des gens qui habitent effectivement la région, qui connaissent très bien et qui n'arrivent pas à situer cette tour. En fait, il s'agit de la tour du château du Rosay, qui est maintenant une école de très haut vol, comme on le sait, qui a des élèves de très haut standing et qui était anciennement une maison forte, un château même plus ancien que le château de Rolles et qui a appartenu à toute une série de grands personnages, notamment en 1440 à Guillaume Bolomier, qui était le grand chancelier du duc de Savoie. C'était un personnage extrêmement riche, extrêmement important, qui est même devenu tellement riche qu'il a fait de l'ombre au duc de Savoie et qu'il a été accusé de malversation et qu'il était noyé dans le lac en 1446. Oui, exactement. C'est une période où on n'y allait pas par quatre chemins.
Il n'y a pas beaucoup de nuances, en effet. La question que je me pose, Paul Bisseguer, lorsqu'on travaille comme ça pendant plusieurs mois, voire peut-être plusieurs années hein, sur une région comme la côte au niveau du patrimoine architectural. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces années de recherche? Est-ce qu'on a tout à coup une vision par strate? C'est une autre globalité, je pense, de la vision que vous
acquérez. Oui, bien sûr. C'est un travail effectivement qui dure très longtemps. Il faut en moyenne 7 à 8 ans par volume. Là, j'ai mis 8 ans pour ce volume-là. Ce sont les dépouillements d'archives, bien sûr, qui sont extrêmement longs. Et aussi le fait de devoir entrer chez les gens. C'est beaucoup de démarches. Il faut mettre les gens en confiance. Ils craignent les voleurs ou le fisc. Enfin, il faut leur expliquer qu'il s'agit d'un travail scientifique. Donc, c'est extrêmement long et effectivement, cela donne une vision générale qui montre à quel point justement ce territoire viticole a attiré les notables, les riches de tout temps. Ce sont les congrégations religieuses au Moyen-Âge, même les moines de Bourgogne venaient ici pour avoir un prieuré, les Clunisiens de Romainmôtier possédaient Bursin, etc. Ensuite, ce sont été les Bernois, bien sûr, qui ont tous presque eu une maison, une grosse maison vigneronne dans les vignes. À commencer par Hans Franz Nageli, qui était le général, si l'on veut, des troupes bernoises qui ont envahi le pays de Vaud en 1536. Nageli a acquis 3 domaines ici dans la région, 3 domaines importants. Et tous les Watteville, les Diesbach, les Wurtemberger étaient tous là à avoir un château. Une grosse maison vigneronne. Donc, il y a effectivement une implantation forte de gens qui ont des moyens financiers importants, qui ont un niveau culturel important et donc qui amènent un niveau artistique important également. Mmh. On a une qualité artistique et surtout une densité monumentale absolument exceptionnelle dans cette région de la côte avec un nombre de châteaux.
Alors, château, justement, je sais que vous avez une sorte d'admiration, de tendresse pour le château de Vinci, Paul Bisseguer.
Oui, le château de Vinci est un édifice assez extraordinaire, extrêmement mal connu. C'est un château à la française entre cour et jardin qui rivalise toute proportion gardée, qui peut rivaliser avec Prangin ou Coppet, par exemple. C'est un château tout à fait privé, qui est resté en main privée, donc il est peu connu du grand public, peu accessible. Il est actuellement propriété d'un architecte mondialement connu, Norman Foster, dont beaucoup de gens ont entendu parler. Donc c'est une maison, une grande demeure passionnante, avec des cours, des dépendances, un magnifique jardin, et surtout des archives extrêmement riches, qui ont pu être dépouillés pour la préparation de ce livre et qui donne, dans le fond, non seulement beaucoup d'éléments sur l'histoire de l'architecture, sur l'évolution du château qui a changé plusieurs fois de décor en façade notamment, mais qui donne aussi ce côté humain avec l'histoire des habitants. Une baronne de Vinci a même vu un fantôme en 1800,
forcément,
dont elle a laissé un témoignage absolument impressionnant. Le lendemain de cette hallucination ou vision qu'elle a eue une nuit, elle a rédigé un rapport très très circonstancié à l'intention de ses enfants pour qu'ils puissent vérifier au moment de sa mort la prédiction qui lui avait été faite par ce fantôme.
Magnifique. J'imagine que cette anecdote-ci et bien d'autres, on va les retrouver ce vendredi à Perrois. C'est à 19h, c'est ça?
À 19h30 à l'église de Perrois.
Une conférence que vous donnez, Paul Bisseger. Donc, je rappelle que pour vous suivre, il suffit de venir vendredi à l'église de Perrois pour votre conférence autour de Rolle et son district. Ce livre, tome 7 des monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud, qui vient de paraître. Magnifique livre, extrême. Vous parliez de rapports circonstanciés de cette châtelaine de Vinci. Eh bien, votre livre, en tout cas, on s'y plonge avec bonheur parce qu'il y a beaucoup d'illustrations, beaucoup d'histoires. Vous écrivez bien. Donc, ça se lit, je dirais pas comme un roman parce que c'est vraiment une somme historique, mais c'est vraiment très, très intéressant. Je ne vous laisse pas partir si vite parce que je sais que vous avez choisi une musique, celle de Johann Schobert, un compositeur du 18e. Pourquoi ce choix?
Eh bien, ce Schobert, qui est un compositeur allemand, mais qui a fait carrière à Paris, qui est connu à Paris, eh bien, ces partitions, c'est du pianoforte, ont été achetées par les dames de Vinci, justement. Elles ont été commandées directement à Paris et cette musique a été jouée au château. Schobert est un musicien intéressant qui est mort extrêmement jeune et tragiquement. Il est allé faire une collecte de champignons avec des amis, accompagné d'un ami médecin qui lui garantissait la bonne qualité de ses champignons et toute la petite troupe, la famille est morte empoisonnée.
Mais quelle horreur,
quelle
histoire.
Tragiquement, lui, il est mort à 27 ans. Donc,
voilà, on écoute la musique, on oublie cette histoire.
Très belle
merci
musique,
beaucoup,
effectivement.
Paul Bisseger.